C'était Louisa avec Soleil Bleu. On est de retour dans les grandes halles de la cartoucherie, halle rénovée, avec son big food court, une école de cuisine, une salle de spectacle, de sport. C'est un tiers-lieu. On est en compagnie de Chloé Camilly. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de la SIC Festa, qui est agréée en entreprise solidaire d'utilité sociale. Vous êtes responsable Impact. C'est une coopérative de commerçants qu'on va commencer par présenter. Qui êtes-vous, Festa ?
Festa, donc, c'est une coopérative, effectivement, comme vous l'avez dit, une coopérative d'intérêt collectif. Une coopérative de commerçants, comme on aime le dire, une société qui exploite des tiers-lieux alimentaires un peu hybrides avec plusieurs activités et surtout une vocation de transition sociale et alimentaire et l'accompagnement justement des restaurateurs dans leur transition sociale et alimentaire. Donc Festa exploite ces lieux et fait la gestion, l'animation de ces lieux.
Pour mettre en place de nouveaux modèles de coopération, d'exploitation en restauration.
C'est ça.
Autour de cette table, on est aussi avec Chloé Debar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable restauration et bar au Refuge by the Roof. Vous êtes par ailleurs, vous avez fait des études en sociologie de l'alimentation. On va parler avec vous de l'alimentation, donc à la croisée des espaces domestiques, politiques, marchands. La sociologie de l'alimentation, c'est aussi l'étude des comportements alimentaires, des normes et des valeurs dont dépendent les choix de nous, consommateurs. Mais avant ça, donc la démarche Festable, et c'est un modèle alimentaire avec du local, du convivial, du social et de la sobriété. C'est ça, tout ça, vous essayez de mettre en place aux halles de la cartoucherie.
Oui, la démarche Festable, en fait, c'est notre démarche Impact, donc en gros RSE, même si on n'aime pas trop appeler ça comme ça. La démarche Festable, elle inclut tout ce qu'on va essayer de mettre en place autour de la transition sociale et environnementale des métiers de bouche. Et cette démarche Festable, elle inclut notamment une de nos solutions phares qui s'appelle les loyers vertueux, qui permet une rétrocession de loyer, une réduction de loyer en gros, pour les commerçants qui auraient des pratiques les plus vertueuses. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut que j'explique plus
oui,
en détail.
Il y a trois pans.
Ouais. Exactement. Donc il faut savoir que les commerçants payent un taux d'effort, donc un pourcentage de leur chiffre d'affaires en tant que loyer. Et ce pourcentage, il peut être abaissé jusqu'à 3 points en fonction de 3 critères qu'on a prédéfinis dans une grille et qui a été signée à la signature de chaque bail de chaque commerçant. Le premier critère, c'est le critère alimentaire, où on demande donc d'avoir 60% d'approvisionnement durable. Ce qu'on entend, nous, par approvisionnement durable, ça va être tout ce qui est produits bio, produits sous SICO, donc AOP, AOC, IGP, etc. Produits locaux, donc dans un réseau de distribution en Occitanie et de production en Occitanie. En direct producteur, pour une meilleure rémunération des producteurs, pêche durable, commerce équitable, enfin tout ce qui est pour nous durable, ça rentre dans ce critère-là et donc on leur demande d'avoir 60% des achats qui sont durables, en valeur.
Et alors chaque commerçant qui veut s'installer ici signe une charte à l'arrivée et vous rendez compte au fur et à mesure de...
C'est ça. Donc ça, c'est ça. Le premier critère, il est analysé. Par exemple, celui que je viens de citer, c'est le critère alimentaire. Il est analysé tous les mois avec des factures, l'ensemble des factures que les commerçants m'envoient et que j'analyse. Et comme ça, je peux leur faire un retour sur, ben voilà, aujourd'hui, vous êtes à 70% d'achat durable, top, vous avez le point pour ce mois-ci. Le second critère, c'est le critère environnemental où on va favoriser la mise en place de contenants consignés, la réduction des déchets, du gaspillage alimentaire, la revalorisation des invendus. Là, pareil, c'est des choses qui me justifient tous les mois et j'accorde ou non le critère. Et le dernier critère, c'est le critère socio-économique où là, on va veiller au bien-être des salariés, à la prévention des violences sexuelles, l'accompagnement des salariés par la mise en place de plans de développement des compétences, plein de choses comme ça, qu'on leur demande pareil de nous justifier tous les mois. Et donc, tous les mois, ils peuvent avoir ces fameux 3 points.
Mais est-ce que pour autant, c'est quelque chose, une démarche qui est suivie par l'ensemble des restaurateurs? Il y en a une trentaine hein, au sein des halles de la cartoucherie, parce que ça fonctionne sur un système de, disons, de remise de loyer, hein, vous l'avez très bien expliqué. Combien joue le jeu parmi la trentaine de restaurateurs, joue le jeu vraiment dans l'esprit de cette perspective?
On a quelques restaurateurs qui sont engagés de base. Et c'est pas ce qu'on est allé chercher volontairement parce que le but justement c'était d'accompagner des restaurateurs qui n'étaient pas forcément et d'essayer de les tirer vers le haut dans ce genre de mode de pratique. Aujourd'hui, en termes de répondants, je crois qu'on est à 70%. Il y en a qui peuvent avoir des difficultés à répondre, par exemple sur les approvisionnements pour un commerce qui vend des produits du monde. Bah, ça va être compliqué, il n'y a pas tous les produits qui sont issus du commerce équitable. Aujourd'hui, on va retrouver le café, le thé, le chocolat, des choses comme ça, mais quelqu'un qui... On a plein de stands qui viennent, qui font des produits du monde, et là, ça va être compliqué d'aller chercher 60% d'approvisionnement durable, quoi.
Mais on avait, par exemple, avec le restaurant d'application de la source, du Mélio à la place de la vanille, avec quelque chose qui nous rappelle les arômes, ouais, de la vanille, mais avec quelque chose qui est produit dans le Tarn, et donc, ouais, ça fait la maille. Et puis, on avait hier comme invité Jean-Marc Sanchez d'Acapella, ouais, qui, lui, cultive du thé dans le Roussillon, donc pour le coup, qui est dans une démarche effectivement...
Ah oui, lui, il est, c'est top. Et par exemple, il fait partie des commerçants qui, de base, sont hyper engagés et qui ont une démarche qui est hyper respectable de base. Après, c'est quand même compliqué, et ça a un vrai coût de pouvoir bien s'approvisionner, et c'est pas parce que les commerçants qui font des produits du monde s'approvisionnent, enfin, n'ont pas de produits durables qu'ils s'approvisionnent mal. Faut faire attention quand même à cette nuance. Ils s'approvisionnent très bien, mais c'est difficile de labelliser des produits, et pour nous, c'est difficile de justifier sur le papier que c'est des produits durables. C'est là que ça pêche un peu. Encore aujourd'hui, on cherche plein de moyens d'améliorer cette grille, et aujourd'hui, on sait que par exemple, sur les produits du monde, on est un peu bloqué.
Les Halles de la Cartoucherie ont ouvert leurs portes il y a un peu plus de 2 ans.
Ouais.
Y a quand même un petit turnover sur l'offre de restauration. Hein, d'ailleurs, c'est aussi conçu pour ça, hein, pour,
oui,
qu'on puisse implémenter au fur et à mesure les choses. Est-ce que ça, c'est une contrainte pour vous ? Est-ce qu'au contraire, ça vous permet d'attirer de nouveaux restaurateurs qui sont précisément peut-être plus sensibles à cette démarche ? Voilà comment les choses se sont développées au cours des 2 dernières années.
Et puis c'est vendeur aussi pour un commerçant qui s'installe ici.
C'est vendeur pour le commerçant, c'est vendeur pour les clients qui peuvent avoir une offre qui se renouvelle, etc. C'est une vraie volonté, hein, à la base, d'avoir des commerçants qui tournent. Nous, on a fait exprès de faire des baux dérogatoires sur toute une partie des Halles qui permettent à des restaurateurs, soit qui... Alors, pas qui s'implantent pour la première fois, parce que ce serait compliqué sur les Halles de la Cartoucherie quand même de se lancer dans la restauration, mais en tout cas, qui veulent peut-être lancer un second concept... commencer à se... Peut-être qu'ils avaient juste un food truck avant et que là, maintenant, ils veulent commencer à s'implanter en dur, etc. Donc, on met en place des baux dérogatoires qui permettent aux commerçants de minimiser le risque et de ne pas s'engager sur une trop longue durée. Nous, on s'engage avec eux puisqu'on fournit des stands qui sont un peu plus aménagés que sur des baux commerciaux. Et donc, ça permet à tout le monde, voilà, de partager le risque, de faire bouger les offres. Et si quelqu'un, au bout d'un an, se rend compte que son offre... va pas, que lui il se plaît pas aux Halles de la Cartoucherie, ou que ça y est, au contraire, il est assez armé pour pouvoir aller ouvrir son commerce ailleurs, bah nous, ça nous plaît, et tant mieux. C'est aussi ça l'impact, c'est accompagner le métier du restaurateur en soi, qui est un métier qui est hyper difficile, hyper contraignant. Il y a de vrais enjeux financiers, etc. On en est conscient, et avant peut-être d'accompagner même la transition sociale et alimentaire, il faut peut-être déjà les aider à tenir dans le secteur aujourd'hui qui est quand même hyper compliqué. Donc la rentabilité, essayer de... Et c'est ça aussi le métier de Festa, c'est accompagner les restaurateurs dans leur métier et dans leur évolution.
À moins que ce soit un secret, mais la remise de loyer, elle peut aller jusqu'où ? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à une remise totale de loyer, par exemple ?
Non, comme je le disais tout à l'heure, c'est 3 critères, donc alimentaire, environnemental et socio-économique. Et ces 3 critères peuvent faire chacun 1 point de réduction. Donc ça peut faire jusqu'à 3 points de réduction, pas plus.
C'est une vitrine, la Cartoucherie, parce que vous avez d'autres implantations. Enfin, Festa, ouais, gère et exploite d'autres halles. Hein. Les 500 qui sont évidemment juste à côté,
oui,
mais aussi celle de Saint-Eurens-de-Gamville, hein, toujours en Haute-Garonne.
Ouais.
Est-ce qu'ici, c'est le laboratoire, c'est là où on expérimente? Comment, est-ce que vous faites exactement la même chose justement à Saint-Eurens ou à côté au 500? Comment les choses se répartissent?
Notre laboratoire, je dirais que c'est plutôt les 500, parce que c'est les 500 qu'on a ouvert en tout premier en 2021, 2 ans avant l'ouverture des Halles. Et c'est toujours aujourd'hui notre laboratoire d'expérimentation. Pardon. Par exemple, les offres de groupe qu'on avait du mal à lancer sur un lieu pareil avec tant de restaurateurs, on a commencé à le faire au 500. On a commencé à faire des privatisations là-bas pendant 1 an. On a tout testé. Et ça y est, on vient de le lancer au Halles, on a lancé les offres de groupe, les réservations de groupe, etc. Mais notre vrai laboratoire d'expérimentation, pour moi, c'est encore les 500, même si ici, quand même, y a forcément énormément de tests et d'expériences qui sont faites. Voilà. À Saint-Ouen, c'est encore autre chose. C'est le but de ce lieu, c'était d'aller dynamiser un cœur de ville qui en avait besoin. Donc on met en place des pratiques vertueuses, etc. Mais c'était trop risqué que de prendre un loyer variable. et pour le restaurateur comme pour nous, hein, d'ailleurs. Et donc, on n'a pas mis en place le loyer vertueux là-bas, mais c'est quand même un restaurateur qui est ici, qui répond au loyer vertueux ici, et donc qui met en place aussi ses pratiques là-bas. Enfin, dans tous les cas, on accompagne ce mode de fonctionnement, même si ça ne passe pas toujours par les loyers vertueux.
Festa, vous imaginez, vous concevez l'exploitation des tiers-lieux avec donc les restaurateurs et des commerçants. Est-ce que le monde évolue ? Est-ce que vous avez des nouvelles solutions à apporter ? Peut-être vous faites du conseil de manière générale ?
Pour les restaurateurs ?
Pour les tiers-lieux ?
Ah. Ce serait un peu prétentieux, je pense, de dire qu'on a des conseils à apporter parce qu'on est encore aujourd'hui nous-mêmes en grande expérimentation sur les loyers vertueux. On essaye de faire évoluer la grille régulièrement. Il y a forcément des critiques à apporter dessus. Là, l'an prochain, le but d'ailleurs, ça va être de faire une nouvelle édition. On en est déjà à la deuxième, donc l'an prochain, il y aura certainement la troisième édition de cette grille avec une évolution soit légère, soit totale de certains critères, certains sous-critères.
Tels que quoi ?
Tels que, par exemple, les approvisionnements. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit c'est bien tel point parce que tu es à 60 ? Alors qu'il y en a qui sont peut-être à 45-50 et c'est déjà très bien dans la restauration commerciale de se fournir à 45-50% d'approvisionnement durable parce que ça, c'est un vrai coût, c'est un engagement, c'est un choix du restaurateur. Comment on le valorise ? Est-ce qu'on fait un pourcentage progressif ? Enfin voilà, c'est plein de questions qu'on se pose aujourd'hui encore. Comment valoriser et favoriser l'engagement ?
Chloé Camilli, responsable impact. Ça, c'est votre titre officiel. Impact, ce n'est pas uniquement l'approvisionnement. Ouais. Est-ce qu'un lieu comme la cartoucherie, desservi, et on en a beaucoup discuté lors de cette résidence, desservi par le tramway, qui est un quartier un petit peu excentré, on n'est pas très loin du périphérique, comment on fait aussi, comment on sensibilise, disons, la clientèle des lieux, la clientèle toulousaine, aux différentes dimensions de ce que peut représenter l'impact, que ce soit carbone, etc. Comment on vient à la cartoucherie, comment on s'approprie les lieux au-delà du simple fait de s'y alimenter et d'y manger des choses le plus vertueusement possible, comme vous l'avez dit.
La cartoucherie déjà est accessible, quand même bien accessible à travers de plusieurs transports en commun, ça c'est sûr. Le tram, les bus, etc. Donc on est quand même plutôt bien desservi. On peut facilement se rendre à la cartoucherie sans prendre la voiture. Et je sais que c'est pas forcément logique dans la tête des gens, parce que moi-même qui habitais de l'autre côté de la Garonne, ça me paraissait l'autre bout du monde avant que je vienne travailler ici. Je me suis rendu compte que pas du tout, il me fallait 15 minutes, donc voilà. Et après, comment communiquer l'impact et comment transpirer ces notions-là auprès du grand public,
sensibiliser.
C'est
encore du travail
un
à faire.
Gros travail et il faut faire attention aussi aux mots qu'on utilise, à comment on le fait, etc. Comment on communique sur ce qu'on fait sans trop communiquer, sans trop en faire, sans que ça passe pour pas du mensonge, mais voilà, faut faire attention.
Fort de greenwashing.
Ouais, voilà. Donc faut faire quand même super attention. Donc on essaye au maximum de le faire. Ben on travaille avec des associations locales comme Emboîte le plat par exemple pour les contenants consignés. Eux par exemple, on les invite régulièrement à venir faire des stands de sensibilisation sur la place du marché à destination des restaurateurs évidemment pour les aider à favoriser l'achat de ces contenants par les clients, mais aussi à destination des clients pour leur dire y a cette solution qui existe, si vous prenez à emporter aujourd'hui, prenez un contenant consigné, ramenez-le la prochaine fois. On essaye de faire des sensibilisations comme on peut à toutes les échelles et pour tous les publics et voilà.
Chloé Debar, on se tourne vers vous. Vous y venez comment à la cartoucherie, vous, tous les jours, pour venir travailler au refuge by Zero ? Vous venez en trottinette, à vélo, j'espère pas en voiture, pas en Tesla en tout cas.
Alors, pas en Tesla, non. Même si j'avais le salaire, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'habite au sud de Toulouse. Du coup, je suis à 3 quarts d'heure de Toulouse. Donc, je fais train et vélo quand je peux. Sinon, c'est voiture. Voilà.
Responsable restauration et bar, donc pour le refuge by The Roof. Le Roof qui est un réseau de franchisés qui propose beaucoup d'activités. Hein.
Une frichise.
Une frichise, ah oui, alors expliquez-nous ce que c'est qu'une frichise.
Alors une frichise, c'est on va dire les nouvelles franchises où on a beaucoup de liberté et on doit juste respecter la charte graphique, grosso modo.
Bon. Le Roof, escalade, petite enfance, il y a 8 ou 9 pôles hein, de développement. Alors, décrivez-nous un petit peu l'ensemble de vos activités.
The Roof Toulouse a été pensé par deux co-gérants, Aurélien Guédon et Pierre Olivier Depuis, en 2014-2015. Ils ont regroupé toutes deux une équipe pour qu'on soit associés salariés. Aujourd'hui, on est 8 associés et donc 7 associés salariés. Chacun responsable de son pôle. donc comme tu l'as dit Nicolas. Et il y a l'escalade, donc il y a deux personnes sur l'escalade, la pédagogie, l'ouverture des voies en escalade. Il y a la responsable petite enfance, il y a la responsable qui gère aussi tout ce qui est accueil, événementiel. Et moi, je la personne aussi qui gère la com, et moi je gère pour le coup la partie restauration.
Voilà, et parcours évidemment, hein, on va s'y intéresser, parcours emblématique peut-être pour vous, hein, puisque vous avez été d'abord serveuse, et c'est comme ça que vous avez découvert, quand vous étiez étudiante, que vous faisiez des études d'architecte, vous avez été serveuse, vous avez découvert les métiers de la restauration, la cuisine était malgré tout quelque chose que vous vouliez faire depuis le début, mais bon, vos parents étaient dubitatifs comme beaucoup de parents sur la suite, ouais. Et puis vous avez ensuite chaussé la casquette de sociologue de l'alimentation, vous allez nous raconter tout ça, mais qu'est-ce qui vous a séduit dans disons, la démarche, encore une fois, de la cartouche? La démarche de Festa, qu'est-ce qui vous a convaincu de venir vous installer ici?
Ouais, alors juste précise, Festa et le refuge By The Roof, c'est vraiment deux entités différentes.
Oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas au sein même des Halles, vous êtes juste à côté.
Si, nous, on est vraiment au sein des Halles. C'est les Halles Nord, Festa est situé aux Halles Nord et The Roof est situé dans les Halles Sud.
Ah oui, attention.
Voilà. Mais nous sommes partis, c'est la SAS de la cartoucherie.
On se voit souvent.
Voilà, on est là. Non, c'est une entité commune, on est juste divisé physiquement par une travée verte, mais non, on fait partie entièrement des Halles de la cartoucherie. Quelle est ta question?
Oui, donc qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de la cartoucherie? Bon, évidemment, toutes ces dimensions engagées, locavores, vertueuses, etc. Mais voilà.
Oui, alors pour le coup, quand j'ai rejoint l'équipe, on m'a vraiment donné une liberté de créativité pour implanter ce restaurant. À l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais en tête un entrée plat dessert à 15 euros, ce qui aujourd'hui n'est pas très réalisable si on veut continuer la cuisine qu'on fait actuellement. Et c'était d'offrir une cuisine accessible à toutes et à tous. Pour le coup, j'avais travaillé en centre-ville de Toulouse où je vendais des plats de pâtes à des étudiants à 7 euros, où c'était du local, pas forcément engagé surtout parce qu'elle faisait aussi comme elle pouvait, mais en tout cas du cuisinier, du fait maison, changé tous les jours. Donc d'offrir vraiment des recettes accessibles à toutes et à tous, moi c'est ce qui m'a vraiment séduite et c'est ce que j'avais en tête et c'était vraiment ma volonté en ouvrant ce restaurant.
Parce que vous avez des expériences en restauration commerciale, en restauration collective?
Que en restauration commerciale et collective minime, parce que le confinement m'y a poussé, en fait, je ne pouvais plus travailler en commercial, donc j'ai dû me tourner vers la collectivité.
Donc vous avez vu toutes les facettes de ces métiers-là. Et donc je le disais, master en sciences sociales appliquées à l'alimentation. Attention, là aussi, il faut être, faut être précis. Vous aviez envie de mêler à la fois les plaisirs de la chair, les plaisirs de la table, avec, disons, des plaisirs plus spirituels. C'est ça qui vous a intéressé dans ce parcours. Parce que vous étiez étudiante à l'ISTIA, l'université Jean Jaurès à Toulouse, qui est l'un des laboratoires de référence en la matière.
Oui, c'est ça. À l'époque, clairement, je crois que je voulais rajouter un peu d'intellect dans ce métier de la restauration qui était très, je pense, pour le faire en tant qu'étudiante, en plus, c'était très abrutissant parce que j'étais étudiante toute la semaine. Je travaillais le week-end, donc j'avais pas trop de vie de jeune, on peut dire. Et une fois que j'ai trouvé ce projet, j'ai voulu me former davantage là-dedans. Et j'ai juste eu le temps de finir mes études. Et c'est, comme vous dites, c'était à ce moment-là où ça a relié un peu l'intellect et la pratique. Donc c'était comment amener de la réflexion dans ce métier, vraiment, que beaucoup de grands chefs et de grands chefs font aujourd'hui, mais qui n'est pas évident parce que, comme je dis, c'est un métier qui peut être vite abrutissant, il y a des horaires qui sont très compliqués. C'est un métier où, si on veut bien faire, il faut être très engagé et c'est assez éreintant. Du coup, je crois que je voulais amener tout ça et avec cette partie aussi d'événementiel qu'on développe avec ma collègue Agathe, c'était comment amener un peu de changer de ce quotidien de restaurateur, restauratrice. C'est ça qui me bottait.
On va y venir, mais on reste encore sur votre parcours. Une expérience auprès du ministère de l'Agriculture où vous rédigiez des fiches produits.
Oui, ça c'était pendant ma licence en restauration collective. Je tombe sur ce stage à la DRAF, du coup, au ministère de l'Agriculture à Montpellier. Et j'ai dû rédiger, comme vous dites, des fiches. J'ai dû aller à travers le Languedoc-Roussillon, puisque je suis montpelliéraine. Je me baladais.
Personne n'est parfait.
Hein. Voilà. Oh, j'aime bien. Un peu plus de soleil d'ici. J'ai dû prendre ma petite voiture, aller me balader dans tout le Languedoc et aller rencontrer différentes restaurations collectives qui étaient en cuisine souvent autogérées, donc qui ne passaient pas par des grandes boîtes, et qui faisaient du produit de qualité et ou bio. Voilà. Donc c'était souvent fait en campagne, en milieu un peu ruraux quand même, pour qu'il y ait plus de praticité avec les fournisseurs. C'est quand même bien plus facile que quand on est en ville. Et suite à ça, j'ai continué avec le master. Et c'était vraiment une certitude de me dire que vraiment, encore une fois, je voulais amener ça dans mon métier de restauratrice. Ouais.
Alors, le refuge, on y vient. Hein. C'est le restaurant dont vous avez la responsabilité. Hein. Vous travaillez avec toute une équipe, un chef de cuisine, chef pâtissière, chef de salle, un second de cuisine. On a pu vous voir travailler entre midi et deux, là, au moment du déjeuner, avec un parti pris, entrée plat dessert 19 euros, des entrées des plats qui changent tous les jours. De mémoire.
C'est ça, ouais. C'est bien ça, ouais.
Et avec une proposition, à l'instar de ce que fait La Source, engager Locavore, encore une fois.
Ouais, pour le coup, c'était avec Festa, c'était vraiment de travailler la main, enfin vraiment d'être une offre complémentaire. On fait, comme on dit, on est une seule entité, donc c'était comment avoir une offre complémentaire. Pour le coup, c'est de la street food, c'est aussi de la manger rapidement, à table, debout, pardon, pas de service à table. Mais nous, du coup, c'est ce qu'on voulait faire aussi, avoir un service plus traditionnel, à table, peut-être plus cocon, parce que les halles, quand même, ça reste aussi bruyant. Donc, je pense que c'est deux offres qui conviennent à différentes personnes. Et donc, on fait un service traditionnel à table, avec donc deux entrées, deux plats, qui changent tous les jours. Et la chef pâtissière fait trois desserts au mois. Voilà.
Voilà. Et effectivement, un endroit qui se distingue un petit peu du reste de l'offre, qui est, Chloé, Camille, on en a parlé, qui est presque une offre collective, avec ces stands qui se succèdent les uns aux autres. Vous avez effectivement votre salle. Vous jouez un peu, pas à part, mais c'est une carte différente par rapport au reste de la proposition. Pas dans la démarche, mais...
Non, dans la démarche, c'est là. C'est très, tout à fait cohérent, parce que de toute façon, je me dis qu'on n'aurait rien à faire à travailler ensemble si ce n'était pas le cas. On ne s'y retrouverait pas déjà professionnellement. Et une offre à part, peut-être dans le sens de la construction de la carte, qui est de faire des menus assez accessibles. Moi, mon envie, c'est vraiment de créer un menu abordable. Donc, c'est pour ça qu'on est sur 19 euros, qui n'est pas très tenable aujourd'hui. Pour être franche,
oui, c'est ce que vous nous expliquez en préparant cette émission. C'est pas rentable pour vous, en fait.
C'est pas rentable. En toute transparence, on se complète avec les autres activités qui sont l'escalade et le mieux-être aussi. Oui, parce qu'on a aussi une partie mieux-être que j'ai pas mentionné tout à l'heure. Pardon, Charlotte. Et donc on se complète comme ça, en fait, avec tous nos pôles. Et du coup, oui, 19 euros, c'est pas très tenable aujourd'hui. On a cette offre qui est commune parce qu'on a des fournisseurs, on a quelques fournisseurs communs. Ben, beaucoup même, je pense, sur les légumes, on reste en Occitanie. Sur les bières, on ne fait que de la bière pression, on passe par une coopérative de bière qui est à Purpan. Les vins, j'ai un négociant qui travaille qu'avec des vins de la région. Pour le coup, pour les produits d'ailleurs, on passe aussi par Ethic Miam, c'est des produits qui ne viennent pas de France, du coup, et qui sont en agriculture familiale. Donc on fait quelques fruits exotiques quand on peut, les agrumes, on les fait en saison. Les
agriculture familiale, qu'est-ce que c'est? C'est donc, oui, ça tombe un peu sous le sens, mais enfin précisez.
Ouais. C'est vraiment à l'opposé d'une agriculture intensive, d'une activité qui n'est pas respectueuse pour l'humain et l'environnement. Voilà.
Alors on parle beaucoup des métiers, la restauration, c'est votre métier aussi, et l'alimentation, c'est à la croisée de plusieurs espaces, je pense l'espace domestique, politique, espace marchand aussi, et là j'essaie d'attraper la sociologue en vous pour parler de la restauration, de l'alimentation comme une identité culturelle aussi.
Ouais. Ouais, c'est mes études en 10 ans.
J'ai plein d'autres questions.
Vous avez tout oublié, c'est ça?
J'ai beaucoup oublié, et avec l'ouverture d'un restaurant et un petit bébé qui est apparu entre-temps, il y a des choses sur lesquelles je ne me suis pas penchée depuis très longtemps.
Mais quand on vient dans un lieu ici, par exemple, qui a son identité propre, c'est un tiers-lieu, on est dans du local, dans du responsable. Rien que le fait de venir, ça en dit des choses sur les gens qui viennent manger?
Alors, là où je vous rejoins, c'est qu'on a vraiment différents publics, nous, pour le coup. Autant, je pense, dans les Halles Nord que dans les Halles Sud. C'est vraiment deux types de publics qui ne cherchent pas la même chose, qui ne cherchent pas la même nourriture, qui ne cherchent pas le même instant, le même moment, en fait, de consommation aussi. Et même nous, au sein de The Roof, et c'est aussi pour ça qu'on a appelé le restaurant Le Refuge, parce que c'est vraiment cet aspect d'accueil, de cocon. On est aussi en lien avec l'escalade, donc le milieu de montagnard qui est très... Voilà, et aussi parce qu'on fait des actions sociales, et de dire que tout le monde est le bienvenu. Donc c'est aussi pour ça qu'on a nommé ce restaurant comme tel. Et j'ai oublié votre question de début.
Comme identité culturelle.
Comme identité culturelle, oui. Et ben on a vraiment différents publics.
Et de classe.
Oui, c'est ça.
Une question simple.
Ouais. Et ben on a vraiment donc différents publics au sein de The Roof qui viennent grimper. Mais les grimpeurs ne viennent pas forcément manger. Et les mangeurs ne viennent pas forcément faire du yoga. Donc tout le monde se mêle. Et c'est ce qu'on aime beaucoup aussi au sein de ce lieu. Culturel, je pense aussi que c'est... Alors pour le coup, on est une des salles d'escalade les moins chères de Toulouse, donc je pense qu'on arrive à avoir différentes classes sociales, et c'est ça qui est intéressant. Mais après, il ne faut pas se leurrer, je pense aussi que les Halles attirent un public qui a aussi les moyens, quelque part. Enfin, faut pas... Ils aiment venir chez nous parce qu'ils se sentent respectés, écoutés, ils savent qu'on fait des prix justes aussi, mais ça reste quand même un public qui a quand même les moyens, je pense.
On posait la question en début d'émission à Xavier Delonglet sur le label écotable dont bénéficie l'école La Source, en lui demandant tout simplement si la clientèle était vraiment sensible à ça. C'est-à-dire si les gens venaient précisément pour ça. Vous faites évidemment tous et toutes des efforts au sein de la cartoucherie pour aller dans le sens que vous nous expliquez, hein, les uns les autres au fil de ces plateaux. Est-ce que vous avez parfois l'impression de prêcher un peu dans le désert, d'être voilà, de faire de est-ce que c'est compliqué encore parce qu'on sait qu'effectivement vous parliez tout simplement de pouvoir d'achat, c'est quand même pas évident d'être dans une démarche qui est la vôtre. Est-ce que parfois vous éprouvez une forme de découragement, de lassitude?
Ah bah totalement, et c'est pour ça aussi que je vous disais que moi j'avais besoin de mêler un peu l'aspect intellectuel et de la cuisine, qui sont deux milieux très complémentaires, parce que si bêtement on s'arrête au nombre de couverts qu'on fait le midi, et qu'un midi on fait 10 couverts, le lendemain on en fait 40, c'est chouette, mais si on en fait 5 toute la semaine, c'est très décourageant. Il y a un côté très opérationnel où bah, il faut vendre ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on crée. Cette démarche, elle n'est pas montée le jour J où on se dit bah, aujourd'hui je vais faire mon plat avec parce que j'ai tel produit. Non, elle a été faite parce qu'on a choisi tel ou tel fournisseur. On se dit que si nos produits sont gaspillés, c'est aussi un agriculteur qu'on ne met pas en avant ou une agricultrice qu'on ne mettra pas en avant. C'est vraiment une démarche globale qu'on a et c'est cet impact-là qu'on cherche aussi dans notre métier. Vraiment.
Chloé Camilly, qu'est-ce qui reste à faire à la cartoucherie en matière d'événementiel, puisqu'on sait que c'est évidemment un volet très important de votre programmation, pour que les Toulousains s'approprient encore plus cet endroit et viennent davantage au-delà des matchs du top 14 du Stade Toulousain?
À part des ateliers d'éducation alimentaire, ah oui, que vous faites hein.
Oui, j'en ai fait deux. Je ne sais pas si je te laisse parler ou... Oui, ça faisait aussi partie de mes envies. Donc, on travaille aussi avec des centres sociaux, avec la SCOT qui sont dans le quartier. Et c'était aussi leur offrir des ateliers d'éducation alimentaire qu'on avait fait en amont pendant la phase chantier où on n'avait pas encore de cuisine à The Roof. Donc, on se rendait dans leur centre social. Et pour le coup, on a accueilli des enfants de 8 à 12 ans, un petit groupe de 8 enfants où je leur ai fait faire de la pâte à tartiner. Et c'était pour vraiment qu'il y ait un impact sur la provenance des produits. En soi, quand on a 10 ans, je pense qu'on s'en soucie pas trop, mais c'est avoir au moins l'information, d'être doté de l'information. Et après, de parler un peu de nutrition, sans que ça soit rébarbatif pour eux, mais de comprendre ce qu'ils consomment, en fait. Et c'est par ce biais, moi, que j'aime bien offrir une agriculture locale, oui, pour les consommateurs qui ont cette démarche d'aller prendre, de payer un plat et de savoir combien ils payent leur plat et ce qu'il y a derrière la